Morgane, merci à tous nos amis de Libreville pour leur fidélité à la VOA.
Et je vous rappelle que vous retrouvez Roger Muntou tous les soirs dans le RM Show à 20h, temps universel.
Nila kanunte ya bele mande shirindi anamo kelena miri manyu weyala kelena kasi manyu weyala.
Il est 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. Dans moins de 5 minutes, je vous retrouve dans le cadre de l'Amérique et vous pour parler d'un spécial Ebola, mais tout d'abord un bulletin d'information. Un patient présentant des symptômes de fièvre Ebola a été admis dans un hôpital de la capitale américaine aujourd'hui, celui de l'université Howard, Camille Gros-Didier.
Selon Kerri-Anne Hamilton, porte-parole de l'hôpital de l'Université Howard, le patient qui s'est récemment rendu au Nigeria est dans un état stable et a été isolé. Entre-temps, le directeur des services de santé du comté de Dallas au Texas a dit que le premier cas d'Ebola diagnostiqué aux États-Unis est sous contrôle, en dépit de la mise en quarantaine de 4 personnes, tandis qu'une centaine d'autres ont été placées sous haute surveillance. Selon les médias américains, le Libéria prévoit de poursuivre en justice le premier malade du virus à Ebola hospitalisé à Dallas. Thomas Duncan aurait menti sur un formulaire qu'il a rempli à l'aéroport le 19 septembre avant son départ pour les États-Unis. Par ailleurs, un caméraman américain travaillant au Libéria pour NBC News a contracté le virus à Ebola. Il sera rapatrié et toute l'équipe sera placée en quarantaine pendant 3 semaines, a fait savoir la chaîne de télévision.
9 casse bleus nigériens tués au Mali. Leur convoi a été attaqué par des hommes lourdement armés de motos. Selon la MINUSMA, depuis le début de l'année, près de 30 soldats de la mission onusienne ont déjà perdu la vie. Olivier Salgado est le porte-parole de la MINUSMA.
Ce matin, un convoi de la MINUSMA a été pris en embuscade par un groupe armé qui est intervenu sur des motos lourdement armées. Et cette attaque a donc entraîné la mort de 9 de nos casques bleus nigériens. Ça s'est passé sur l'axe Menaka-Asongo, à une quinzaine de kilomètres de Indéline. On est en train de mettre en place des mesures pour parer à ces attaques qui ont été trop fréquentes ces derniers mois. Évidemment, on ne peut pas rester sans réaction face à ces attaques répétées.
Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA, joint par Nicolas Pinault. Et puis, l'ancien ministre malien de la Défense, Soumeilou Boubey Maïga, était en garde à vue aujourd'hui à Nanterre, près de Paris. C'est ce que rapporte l'AFP, citant une source proche du dossier. Cette interpellation intervient dans le cadre d'une enquête de corruption visant l'homme d'affaires Michel Tomi. On ignore les faits susceptibles d'être reprochés à l'ancien ministre malien. Au Nigeria, 3 hommes accusés de terrorisme ont été jugés en secret et condamnés à 25 ans de prison chacun. C'est ce qu'annoncent les autorités de l'État de Lagos, citées par l'AFP. Des médias nigériens ont rapporté que les coupables faisaient partie d'une antenne locale de Boko Haram qui préparait des attentats à Lagos. Au Nigeria, toujours dans l'État de Yobe, les autorités ont interdit à la population de voyager pendant toute la durée du week-end de l'Aïd afin de prévenir des attaques du groupe islamique Boko Haram.
I have a dream. It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Le péril Ebola a finalement traversé l'Atlantique. Un premier cas de maladie au terrible virus a été diagnostiqué à Dallas, au Texas. Le pays de l'oncle Sam est plus que jamais aux avant-postes de la lutte contre l'Ebola. Bienvenue dans l'Amérique et vous.
l'Amérique et vous, Jean-Roger Billon.
Un cas de fièvre hémorragique à virus Ebola a été identifié à Dallas, au Texas. Il s'agit du premier cas de la maladie officiellement recensé aux États-Unis, mais également hors du continent africain. Le patient est arrivé sur un vol en provenance du Libéria le 20 septembre et n'aurait éprouvé de symptômes de la maladie que quelques jours plus tard. S'étant présenté à l'hôpital une première fois, il a été renvoyé à domicile avec des antibiotiques, ce qui suscite des interrogations. Les services de santé américains auraient-ils pu mieux faire? Camille Gros-Didier a recueilli la réaction du docteur Malonga Miatoudila, expert en santé publique.
Quand il est venu du Libéria, il n'avait pas de fièvre. Bon, donc là, je peux excuser que lui-même ne se sente pas concerné. Et puis après, il fait de la fièvre. Il se présente dans un hôpital. Dans l'interrogatoire, on va lui demander. Dans les diagnostics différentiels, à ce moment-là, on aurait pu faire un test très simple pour voir, je sais, peut-être c'est malaria, peut-être c'est Ebola. À ce moment-là, il y a la première phase. La personne ne peut pas infecter quelqu'un. Et la deuxième phase, c'est la phase de grippe, fièvre de quelqu'un venant dans les conditions aujourd'hui du Libéria. Dans les listes, je dois mettre Ebola. Donc, on doit faire un test de malaria, un test de Ebola. Donc, on aurait pu voir à ce moment-là qu'il avait le virus. Alors, on nous a attendu qu'il passe à la phase 3, où à ce moment-là, il peut contaminer d'autres. Donc, ça, c'est l'erreur qu'on a faite. Donc, à la phase 2, quand il est venu pour fièvre, on aurait dû penser à Ebola. Bon, maintenant, ils n'ont pas pensé à ça parce que, bon, nous sommes aux États-Unis, nous sommes loin. Donc, ça doit maintenant donner une leçon aux Américains et aux autres pays, aux autres membres des pays très développés.
Le malade a déclaré ne pas avoir eu de symptômes quand il a pris l'avion, mais est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il n'a pas dit toute la vérité?
Ah non, il est dans la phase 1. Nous appelons ça phase d'incubation. Donc, si vous attrapez le virus aujourd'hui, vous allez d'abord passer par une phase d'incubation. Vous ne savez pas que vous avez le virus, bon, vous n'avez pas le signe. Donc, il faut donner du temps au virus de se multiplier parce que ce virus-là est très infectieux. Il n'est pas très contagieux, mais il est très infectieux. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une grosse dose pour développer la maladie. Donc, vous avez été un peu distrait, vous avez touché le sang de quelqu'un, pas beaucoup, mais un tout petit peu seulement. Et alors, vous passez par la phase 1 où vous n'avez pas de symptômes, alors rien du tout. Donc, il pouvait être honnête, franc, sincère quand il a dit que, bon non, c'est pour l'avion, je n'avais pas de problème.
C'est un avertissement que personne, aucune société ne peut sous-estimer l'Ebola.
Moi, je voudrais forcément insister sur le fait que nous devons nous considérer comme faisant partie d'un grand village. Les gens ne se rendent pas compte de quelles sont les implications de ça sur le plan même des changements climatiques, les maladies. Nous sommes maintenant un village. Et aucun pays ne doit se considérer comme étant en dehors de ce village, de ce bateau, de ce paquebot.
Le docteur Malonga Miatoudila, expert en santé publique, qui avait fait partie en 1976 de l'équipe ayant identifié pour la première fois le virus à Ebola en Afrique centrale. Une centaine de personnes ont été placées sous surveillance au Texas du fait qu'elles s'étaient trouvées, qui est devenu le premier patient souffrant de fièvre hémorragique à être diagnostiqué avec le virus à Ebola. Parmi elles, 18 auraient eu un contact direct avec le nommé Thomas Eric Duncan, le malade en question, qui est dans un état grave à l'hôpital texan Elf Presbyterian Hospital de Dallas. Thomas Eric Duncan a été hospitalisé dimanche dernier à l'hôpital dans le Texas où il est actuellement en isolement total. Le 10 ans à présent dans un état grave, les responsables de l'hôpital ont reconnu qu'il était d'abord venu à l'hôpital 2 jours plus tôt et qu'il avait été renvoyé à la maison avec des antibiotiques. Une forte communauté africaine vit au Texas. Quel est l'état d'esprit de la communauté au moment où l'on annonce l'avènement d'Ebola en Amérique?
Mon nom c'est Lydie C. Je suis à Arlington, à 30 minutes de Dallas, entre Dallas et Fort Worth. Ici, nous sommes serrés, on n'a pas peur. On n'a pas peur parce qu'on fait confiance à la médecine américaine. Comme ils ont déjà guéri le docteur quelques semaines passées, donc nous sommes serrés.
Alors, la personne qui a atteint l'Ebola a été placée dans un hôpital, le Presbyterian Hospital. C'est une zone d'habitation proche des Africains, de la communauté africaine.
Presbyterian Hospital, c'est à North Dallas. Bon, c'est plus pour les personnes, de wealthy people. Donc, ce sont les riches qui sont là-bas vers la résidence de George Bush. Donc, il n'y a pas trop d'Africains.
Quelle est la situation globale à Dallas? Les populations sont-elles apeurées ou, comme vous, les Africains, il y a une espèce de sérénité qui règne?
La plupart des gens que je croise et avec qui je discute, ils n'ont pas peur. Bon, il y a une certaine psychose, puisque quand on a appris le cas, on s'est dit « Ouh !» Ils nous ont suivis jusqu'à ici, mais à la fin, tout le monde reste serein, quoi, parce qu'on sait qu'il va guérir. Avec les informations que les docteurs nous donnent, il y a 0% de risque. Donc,
y a-t-il une campagne particulière que les autorités de la ville mènent pour sensibiliser les gens?
Oui, partout, à la télévision, on nous demande une hygiène de... Il faut se laver les mains, il faut vraiment... prendre soin de son hygiène, quoi.
À quel niveau on peut estimer la population africaine dans la ville de Dallas?
Nous pouvons atteindre 10 000 personnes, hein, parce qu'au sud, à cause du climat, nous sommes plus attirés puisqu'il ne fait pas froid ici. Et nous sommes proches du Mexique. La communauté congolaise, en elle seule, elle peut regrouper 10 000. Il y a des Libériens, il y a des Ivoiriens. En tout cas, nous sommes beaucoup.
Donc, ce qu'il faut retenir de l'attitude des populations de Dallas, c'est qu'il n'y a pas de panique.
Non, il n'y a pas de panique.
Bonemi na niko ebola. Manya osi lamfenya. Ebola. Seriko iboyana. Ebola. Bana jugu minane ko ebola, manyo osila mfenye. Jangaro minane ko ebola, manyo osila mfenye. Bone mina niko ebola, manya osila mfenye. Ite demiseni to, ite makora to. Ebola, seriko iboyarala. Ite borokolo to, ite walitigi to. Ebola. Siri koi boyarola, bana jumbi na niko ebola, manya osila mfenye.
Sur le continent africain, on ne relâche pas les efforts. En Guinée, l'un des épicentres de la maladie, les forces de sécurité intensifient leurs efforts de dépistage d'Ebola à la frontière avec la Sierra Leone. Dans la région de Kindia, les autorités sanitaires sont en état d'alerte pour les cas suspects. Lionel Gaïma.
Les gens qui arrivent à Madina Oula, à la frontière avec la Sierra Leone, sont soumis à des contrôles sanitaires rigoureux pour vérifier les cas de fièvre. Tous les voyageurs doivent se laver les mains avec du savon avant d'entrer en Guinée. Le comité de crise de l'Ebola à Kindia a répondu à plusieurs cas suspects d'Ebola. Un seul a été testé positif, précise le docteur Mori Togba, un responsable de la santé.
Tout récemment, on a enregistré effectivement un cas d'Ebola. Le cas d'Ebola, c'est un étudiant de médecine. L'étudiant en question s'était déplacé pour assister à une cérémonie funéraire d'un prêtre de l'église protestante Alléluia à Conakry. Donc je crois que c'est à son retour qu'il a commencé à manifester ses différents symptômes. On s'est rendu d'abord dans la famille de l'enfant malade. Là-bas, ils sont au nombre de 4. Et on a d'abord essayé de les sensibiliser parce que le comportement ne devait plus être comme avant, parce qu'il faut qu'ils restent sur place au moins pendant 21 jours. Donc tous les différents contacts ont été relevés et à l'heure là, on est en train de suivre les contacts. Donc le suivi des contacts a commencé depuis le 19 et certainement ils sont à leur 10e ou 11e jour comme ça. Pour le moment, aucun n'a présenté un signe de suspicion de cas d'Ebola.
Les proches de la patiente et le personnel médical qui l'a traitée ont été mis en quarantaine. Aucun n'a présenté les symptômes de la maladie. Mais au moins 33 agents de santé sont morts sur les 110 qui avaient été infectés. Selon le docteur Abdou Kondé, le chef de l'hôpital régional de Kindia, le problème majeur était la négligence du personnel médical qui ne portait pas des gants.
En ce qui concerne le personnel de l'hôpital, il y a eu 13 contacts que nous avons pu identifier. Ils sont actuellement sous contrôle médical et ils vont être suivis pendant 21 jours.
Maintenant, à Kindia, la campagne de sensibilisation sur l'Ebola semble avoir porté des fruits. La population coopère avec les agents de santé. Il y a toutefois quelques résistances. Selon Mariama Kamara, une femme d'affaires, les gens craignent que le paludisme soit confondu avec la fièvre Ebola.
Je suis sûre qu'il y a Ebola en Guinée, mais les gens n'ont pas sûr de ça, hein, qu'il y a Ebola en Guinée. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il n'y a pas Ebola en Guinée. Et tout ce qu'on dit, c'est du faux. Il ne fait que prendre les gens qui ont des palis, on l'amène à l'hôpital régional de Kindia pour les injecter, pour qu'elle meure, qu'il n'y a pas Ebola, que c'est la politique du président.
Contrairement à certaines entreprises qui ont fermé leurs portes à cause de l'épidémie, la société minière Rusal est toujours en activité. L'entreprise russe d'exploitation de la bauxite emploie environ 10 000 personnes à Kindia.
Cri d'alarme de l'ONG Save the Children, on signale au moins 5 nouvelles infections au virus à Ebola en Sierra Leone toutes les heures et l'on a recensé au moins 765 nouveaux cas la semaine dernière alors que le pays ne compte que 327 lits pour les recevoir. Si les donateurs ne se mobilisent pas dans les plus brefs délais, affirme Eric Hazard de l'ONG Save the Children, il sera impossible de juguler l'épidémie.
On a estimé actuellement qu'en une semaine, on a eu à peu près 765 nouveaux cas qui sont apparus dans un pays comme la Sierra Leone. Ça veut dire à peu près 5 nouvelles personnes qui sont infectées chaque heure. Ce que l'on voit dans un pays comme la Sierra Leone, où il n'y a que 327 lits disponibles, si on a 765 nouvelles personnes à traiter en une semaine, la situation devient juste critique et intenable. Et concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, à Freetown, tous les jours, on a nos équipes qui nous rapportent que de nombreuses personnes qui sont malades, qui sont affectées et qui essaient de partir à l'hôpital ou dans les centres de traitement sont obligées de retourner chez elles avec l'infection. Et donc, d'abord, elles ne peuvent pas être soignées, mais surtout, elles risquent de renforcer la diffusion et la contamination déjà extrêmement exponentielle qui a lieu dans les trois pays les plus infectés que sont la Sierra Leone, le Liberia et la Guinée.
La Grande-Bretagne a promis 700 nouveaux lits à la Sierra Leone, mais entre-temps, où en sont les donateurs?
On peut dire qu'il y a une forte mobilisation, comme on a rarement dans les crises humanitaires habituelles. Le problème maintenant, c'est qu'il va falloir s'assurer finalement que les ressources qui vont être mobilisées vont être rapidement disponibles sur le terrain. Il y a un mois, les besoins étaient estimés à 100 millions de dollars. Aujourd'hui, on parle d'un milliard de dollars juste pour couvrir la réponse et les besoins actuels. Et on a à peine 28 millions de dollars qui ont été déboursés. Donc, il y a un vrai besoin que l'argent soit mobilisé, surtout délivré, accessible dans les deux semaines qui arrivent.
Mais est-ce que les aéroports sont ouverts?
On a un corridor qui a commencé à s'ouvrir au niveau du Ghana. Le corridor au niveau du Sénégal, semble-t-il, a commencé lui aussi à fonctionner. Et c'est certainement là que va se trouver la réponse à la crise. Parce qu'aujourd'hui, si l'argent, finalement, n'est pas la principale inquiétude, même s'il faut qu'elle arrive rapidement sur le terrain, la principale inquiétude, ça va être la capacité, au-delà des finances, d'avoir les bonnes personnes à la bonne place au bon moment. On sait, par exemple, que les travailleurs, les médecins, les infirmiers ont été finalement les personnels le plus touchés par la crise. En Sierra Leone, près de 10% du personnel médical a été affecté par Ebola. Ça veut dire aujourd'hui qu'on manque cruellement de médecins, on manque cruellement d'infirmiers, on manque cruellement de logisticiens. Et donc, au-delà finalement des ressources qui sont mobilisées, il faut que ce personnel puisse arriver sur place et puisse arriver sur place avec le matériel nécessaire. Et donc, c'est là aussi que la course contre la montre se situe et que les corridors humanitaires plus que jamais, doivent être activés très sérieusement.
Eric Hazard, joint à Dakar par Camille Gros-Didier. La Grande-Bretagne s'est engagée jeudi à débloquer 160 millions d'euros pour aider la Sierra Leone à lutter contre l'Ebola. En Guinée, le président Alpha Condé a profité des festivités marquant le 56e anniversaire de l'accession à l'indépendance pour évoquer l'impact économique désastreux de la maladie. Et mercredi, la Banque africaine de développement, la BAD, a accordé une aide de 155 millions de dollars au Libéria, à la Guinée, à la Sierra Leone et à la Côte d'Ivoire pour lutter contre le virus à Ebola. Les orphelins de l'Ebola sont une autre facette de la crise qui dévaste l'Afrique de l'Ouest. Lorsqu'ils ont la chance de survivre, ils sont rejetés par les familles et communautés par peur de contagion et abandonnés à eux-mêmes. Les précisions de Michel Joseph.
Selon l'UNICEF, ils sont au moins 3700 enfants guinéens, sierra-léonais et libériens à avoir perdu au moins un parent dans l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Selon l'UNICEF, ce chiffre, qui représente le bout de l'iceberg, pourrait doubler d'ici la mi-octobre. Souvent, les enfants vont avec leurs parents malades dans les centres de traitement et si les parents meurent, il est difficile de trouver quelqu'un pour s'occuper de leur progéniture. Manuel Fontaine, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
The issue still remains very much stigma. For example, we've had a case recently of a young 4-year-old boy who was in this situation. We had found a...
La question demeure essentiellement celle de la stigmatisation. Par exemple, nous avons eu récemment un petit garçon de 4 ans dans cette situation. Nous avons trouvé un survivant pour s'occuper de lui, mais c'est la communauté qui a rejeté l'enfant. Une formule trouvée par l'UNICEF est de confier ces orphelins de l'Ebola à des survivants pour au moins 21 jours, la durée de la période d'incubation. Après cela, des solutions à long terme devront être trouvées. Manuel Fontaine a annoncé que le ministère sierra-léonais des Affaires sociales et l'UNICEF organiseront une conférence sur la question à la mi-octobre.
Les survivants, à ce moment, sont en train de se réunir dans une forme de... of a network, which is very positive. They're really trying, I think, partly because they need to try to help each other. Survivors also suffer.
Les survivants, pour le moment, tentent de se regrouper dans une sorte de réseau, ce qui est très positif. Ils essaient vraiment, en partie, parce qu'ils ont besoin de s'aider les uns et les autres. Bien qu'ils soient protégés contre l'Ebola, ils souffrent de stigmatisation lorsqu'ils retournent dans leur communauté. Au cours des 6 prochains mois, l'UNICEF formera plus de 2500 survivants de l'Ebola en Sierra Leone et viendra en aide aux enfants dans les centres d'isolement. Des efforts sont déployés pour réunir certains avec leurs parents, a indiqué Manuel Fontaine. Au Libéria, l'agence onusienne aide le gouvernement à former 400 autres agents de santé mentale et travailleurs sociaux. L'UNICEF et ses partenaires envisagent aussi d'assurer un soutien psychologique à quelques 60 000 enfants et familles vulnérables dans les communautés affectées par l'Ebola.
Éclat de voix.
On termine avec une bonne nouvelle sur le front de l'Ebola, une nouvelle relayée ce vendredi par le Washington Post et CNN. Michel Joseph nous en dit plus.
Oui, Jean-Roger, alors que l'épidémie prend de l'ampleur en Afrique de l'Ouest, un médecin d'une région rurale du Libéria affirme avoir obtenu de bons résultats en traitant les victimes de cette fièvre hémorragique avec un médicament utilisé jusqu'à présent pour combattre le VIH, le virus qui cause le sida. En désespoir de cause, faute de pouvoir offrir autre chose aux malades qui se présentaient devant lui, le docteur Gorby Logan a donné ce médicament, la lamivudine, à 15 victimes de l'Ebola. Tous, sauf deux, ont survécu, soit un taux de mortalité approximatif de 13%. Par contre, dans le reste de l'Afrique de l'Ouest, le taux de mortalité du virus à Ebola est chiffré actuellement à 70%. Les patients qui ont survécu ont été traités rapidement dans les 5 premiers jours après l'apparition des symptômes. Les deux malades qui sont décédés ont pris la lamivudine dans les 5 à 8 jours après le début des symptômes. À noter que la lamivudine peut avoir des séquelles, notamment entraîner des déficiences du foie. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de vie ou de mort, plus question d'hésiter. Comment le docteur Logan a-t-il eu l'idée d'utiliser la lamivudine? C'est en lisant dans une revue scientifique que le VIH et l'Ebola se reproduisent dans le corps de la même façon. Il a d'abord essayé un autre médicament contre le VIH, l'acyclovir, mais sans résultat. Il s'est alors tourné vers la lamivudine. Le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a demandé à CNN de fournir son adresse e-mail au docteur Logan pour qu'il prenne contact, signale la chaîne de télévision. Le docteur Logan comptait prendre contact dans les plus brefs délais.
Merci Michel Joseph de l'UE d'espoir donc pour vaincre l'Ebola. L'artiste ivoirienne Aïcha Kone a jeté son poids dans la bataille contre la fièvre hémorragique avec ce single consacré donc à Ebola. On finit avec l'impératrice de la chanson ivoirienne.
Bonen mina neko ebola, manya osi lamfenye. Ebola, seriko iboyana. Ebola, seriko iboyana. Bana jugu mina neko ebola, manya osi lamfenye. Jangaro mina neko ebola, manya osi lamfenye. Bone mina neko ebola, manya osi lamfenye. Ite demiseni to, ite makoro to. Ebola, seriko iboyara la. Ite borokolo to, ite waritigi to. Ebola, seriko iboyara la. Bana jumbi nani ko ebola. Manyo sila mfenye. Jangaro mina niko ebola, manya osi lamfenye. Bone mina niko ebola, manya osi lamfenye. Olutarani le ameluko Olutarani la gine kaluko ala quando tarani sa Seriko iboyola ebola oye Seriko iboyola iboni yomina oluye kesila ima se yomina Olu hamini eyi ebola, seriko iboyola. Ebola, seriko iboyola. Sama ukuru ebola.
Ce sera tout pour cette édition de l'Amérique et vous consacrée à l'Ebola. Jean-Roger Billon à ce micro, réalisation Michel Joseph. Bonsoir à tous.
Partout on parle de toi, mais tu es là. Ebola,
Seriko iboyona.
Tunyale, Ebola c'est vrai. Tunyale, Ebola la méchante. Courage la Guinée, tu t'en sortiras c'est sûr. C'est dans le malheur qu'on reconnaît ses vrais amis.
Seriko iboyona.
Merci au gouvernement guinéen et à la communauté internationale.
Seriko iboyona.
Retourne.